Et j'aimerais vous partager sur la vraie repentance ce matin. Hein? Sur la vraie repentance. Ça a été la première prédication du Seigneur. Au chapitre 4, verset 17, « Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Hein? Il est impossible d'entrer dans le royaume des cieux sans la repentance, mais sans une vraie repentance. Il faut que dans notre vie, nous ayons les fruits de la repentance. La vraie repentance, ça a des fruits. Hein, le Seigneur, il connaît les fruits de la vraie repentance. Hein, on ne peut pas, on peut se mentir à soi-même, mais on ne peut pas mentir au Seigneur. On peut se tromper nous-mêmes, hein, mais le Seigneur connaît nos cœurs. Il sait qu'est-ce qu'il en est de notre foi, de notre conversion, de notre vie. Hein? Et Jésus prêchait cela parce que c'était impossible pour l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu sans cette vraie repentance. Hein? Et la Bible nous parle de la repentance de deux manières. Au fait, si on étudie un petit peu dans le grec original, on voit qu'il y a deux mots qui sont traduits par se repentir, et il y en a un qui est le mot qui nous intéresse très particulièrement et qui est la preuve d'une vraie repentance et d'une vraie conversion que nous avons besoin de comprendre, qu'il ne faudrait pas mélanger cela avec l'autre. Donc le premier, qui est le moins important, c'est le mot « metamelomai ». J'ai essayé de pas mailler. C'est pas pour vous donner de grands mots, mais il faut bien qu'on parle de ces choses. Hein? Les deux commencent par méta. Metamelomai et metanoia. La bonne repentance, c'est metanoia. La repentance qui reste superficielle, c'est metamelomai. C'est la repentance qui est superficielle, qui n'amène pas loin. C'est la repentance qui est émotionnelle. Si vous voulez découvrir cela, on peut voir cela, par exemple. Vous avez votre Bible avec vous? On peut aller dans, je crois que c'est dans Matthieu. Chapitre 27. Et ce mot parle plus d'un remords. Ça parle d'un remords, mais ce n'est pas une repentance qui amène un changement. Hein? Ce matin, je prie que le Seigneur m'accorde la grâce de clarifier ces choses-là devant vous, pour que vous puissiez vous éprouver vous-même pour voir où vous êtes. Parce qu'il ne faut pas se tromper par le fait qu'on fréquente une église. Hein? Il ne faut pas se séduire par le fait qu'on fréquente une église. La conversion, hein, qui est le fruit de la repentance, c'est pas la fréquentation d'une église. Hein? Il y a des fruits. Si on fait la différence bien entre les deux, on va voir que peut-être qu'on est concerné par un, mais que l'autre n'est pas là. Hein? Donc, le but de la prédication, c'est de nous amener à nous éprouver nous-mêmes. Et que personne ce matin ne se cache derrière un rideau d'appartenance à l'Église, d'année de conversion, mais on doit regarder à notre vie. Parce que lorsque le Seigneur va venir, tout sera révélé. Ça ne sert à rien de jouer une comédie chrétienne. Le Seigneur, il ne monte pas de comédie. Le royaume de Dieu, c'est pas une troupe de comédiens. C'est une réalité. Et il faut faire face à la vérité de l'Évangile pour savoir qui on est, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, pour voir si d'après la parole de Dieu, on est là où il faut, on est dans l'état qu'il faut, dans l'état d'esprit qu'il faut, ou bien on est simplement un religieux, quelqu'un qui peut-être aime le Seigneur, mais dans lequel il n'y a pas de profondeur. Hein? Et au chapitre 27, la Bible nous dit au verset 3 que Judas, après avoir livré le Seigneur, voyant qu'il était condamné, se repentit, metamelomai. Il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Et ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Et la Bible nous dit, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Voilà une repentance qui n'a pas amené bien loin. Métamélomai. Hein? C'est un remords dans la conscience. C'est juste qu'on est peiné dans notre conscience, on est tourmenté dans notre conscience, par notre conscience de quelque chose qu'on a fait qui est mal. Mais c'est une repentance qui est superficielle. Ça fait ressentir la douleur du péché, mais ça n'amène pas de changement. C'est pas ça qu'il nous faut. OK? Il nous faut la vraie repentance. La Bible nous dit, par exemple, qu'Ésaü, lui aussi, quelque part, il a réalisé ce qu'il a fait et il est allé pleurer avec son papa. Mais ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait, ça n'a pas changé son sort. Ça n'a rien changé des conséquences de ce qu'il a commis. Hein? Mais la repentance que Dieu nous donne, la repentance qui est prêchée, qui a été prêchée par le Seigneur, quand le Seigneur dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche, c'est métanoïa. C'est une repentance qui est un appel à changer de vie. Pas à rechercher le pardon juste d'un péché ou de quelque chose qui nous tourmente. C'est un appel à changer de direction. C'est pas essayer de régler un petit problème avec notre vie. C'est toute notre vie qui change de direction. Si je mets des objets sur ce pupitre, je peux commencer à tourner ça. D'autres objets, je vais essayer de tourner ça. Si on me dit tourne ça, je tourne ça. Mais la meilleure façon, c'est que je prends le pupitre et je le tourne. Et tout tourne avec. Oui ou non? Il faut changer de direction, mes frères et mes sœurs. L'évangile, c'est un appel à changer de direction. C'est pas venir devant le Seigneur et pleurer sur notre petit péché et après on continue à vivre notre vie. Celui qui se repent et qui est tourmenté parce qu'il a commis quelque chose, mais qui ne comprend pas le changement de direction que Dieu veut donner à sa vie, c'est quelqu'un qui va certainement retomber, qui va recommettre autre chose et qui va passer sa vie à être tourmenté par ses faiblesses. Et ça, c'est métamélomai. Je ne sais pas si j'aurais réussi à parler le grec si j'avais vécu à cette époque-là. Hein? C'est superficiel, c'est le remords. Ça fait du chrétien quelqu'un qui pleure sur lui-même, qui a pitié de lui-même, qui trouve qu'il est défavorisé, qui trouve que les autres sont bien, lui, pourquoi est-ce qu'il a ces choses-là? Hein? Ça amène le chrétien à traiter ce qui ne va pas dans sa vie d'une manière superficielle. Et ce genre de repentance fait référence à des petits détails. Contrairement à métanoïa, qui fait référence à quelque chose de général. C'est la vie d'une manière générale. C'est pas des petits détails. Hein? Quand on est religieux, on cherche Dieu pour les petits détails. Hein? On réalise qu'on a des petites faiblesses, des petites choses, et on est avec ça, et parfois on tombe, on fait ce qu'il faut pas, et on se tourmente, mais on réalise pas qu'on est comme quelqu'un qui est en train de, au lieu que le bateau change de direction, on est en train de prendre juste le canon et le retourner. On est en train de prendre ce qui est dans le bateau, l'objet du bateau, et le retourner, mais le bateau continue dans la même direction. Il va vers la terre, il va faire un naufrage. Et les chrétiens, souvent, ne comprennent pas ça. Ils croient que la vie chrétienne, c'est régler leurs petits problèmes, et qu'en réglant les petits problèmes qui ne vont pas, les petites choses qui ne vont pas, en essayant de faire cela, eh ben, ils sont sur le bon cap. Non, mon frère. Le changement vient quand tout le bateau change de direction. Ça se réfère à la vie chrétienne d'une manière générale, métanoïa. Tandis que l'autre mot, que vous connaissez pas encore maintenant, métamenomai, ça fait référence à des petits détails. Hein? Ça amène le chrétien à pleurer sur les petits détails, à regarder sa petite faiblesse et avoir du remords pour ce qu'il rate là où il échoue. Je ne méprise pas cela. C'est pas ça le but, non du tout. Hein? Mais ça ne mène nulle part. C'est tourné en rond. Est-ce que vous comprenez? C'est tourné en rond, ça ne mène nulle part, on s'en sort pas. C'est pas la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est métanoïa. On se tourne le bateau, on le fait changer de cap. C'est ma vie entière qui change de direction. Et Dieu prend soin de ce qui ne va pas sur le bateau après. Mais il me demande, lui, de changer de cap. Et les petites choses qui sont dessus, c'est lui qui va nous aider. Et nous allons avoir la grâce de régler beaucoup de choses dans notre vie avec ça. Hein? Très important de comprendre ces choses, mes frères et mes sœurs. Que la vie chrétienne, c'est pas la repentance, c'est pas avoir des remords. Hein? C'est la première chose qui prend quelqu'un quand il fait quelque chose de grave. C'est normal, parce que ça vient de la conscience. Notre conscience nous parle. Vous savez, les gens du monde ont du remords aussi. Quelqu'un qui est dans le monde, il fait quelque chose de mal. S'il a sa conscience quelque part qui est encore vivante d'une manière ou d'une autre, il est reproché dans sa conscience. Il est tourmenté par cela. Mais la repentance chrétienne, c'est pas ça, la repentance chrétienne. C'est notre vie qui change de direction, qui prend une autre direction. Et que celui qui vit comme cela, ce qui n'est pas, ce qui a besoin de changer, il y aura la foi dans son cœur. Il aura la foi, il aura la paix avec le Seigneur, il n'y aura pas de condamnation pour lui, sur lui, parce que il est en route, il a mis le cap avec sa vie dans une autre direction, il a pris le chemin de la croix. D'accord? La vraie repentance ne traite pas seulement les petits détails. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, nous devons bien sûr nous repentir du petit détail, mais il y a une chose que nous devons considérer, quelle est la direction de notre vie. Parce que souvent, la direction de notre vie, c'est ce qui donne de la force aux petits détails qui nous fait tomber. Bien compris. La direction qu'on donne à notre vie, c'est-à-dire, quel est notre style de vie, pour qui on vit. Hein? Quand on est religieux, on lutte avec nos faiblesses, et on a du remords, on demande pardon, on essaye de se relever, et on est tourmenté, on est enfermé dans cette prison qui pourrait s'appeler tomber levé. On est enfermé dedans, on s'en sort pas. On a de plus en plus de remords et on n'est pas bien. Mais quand on a métanoïa, la vraie repentance, on décide de donner notre vie au Seigneur et de donner à notre vie une nouvelle direction. Et Dieu est avec nous dans cette nouvelle direction. Hein, frères et sœurs? Dieu est avec nous dans cette nouvelle direction. Dans l'Épître aux Corinthiens, alors, c'est 2 Corinthiens, chapitre 7. Et le verset 8, l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens. Il dit, quoique je vous ai attristé par ma lettre, au verset 8, chapitre 7, quoique je vous ai attristé par ma lettre, je ne m'en repens pas. Bon, je trouve que c'est pas très bien traduit. Parce qu'il y a un mélange là de repentir, de pas se repentir. Le mot se repent pas, c'est-à-dire je ne regrette pas. D'accord? Je ne regrette pas. Ça n'a rien à voir avec la repentance là. Pas pourquoi ils ont traduit ça comme ça à l'époque. Et si je m'en suis repenti, c'est-à-dire si j'ai regretté cela, car je vois que cette lettre vous a attristé bien que momentanément, je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Votre tristesse vous a porté à la repentance, à métanoïa. S'il y a une tristesse du péché, ça ne doit pas être un remords qui nous écrase, mais ça doit nous porter à la repentance. Donc, la tristesse, c'est pas obligatoirement la repentance. On peut rester avec la tristesse, mais la repentance, c'est un pas de plus que la tristesse. Et Paul dit aux Corinthiens, votre tristesse vous a porté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Alors, c'est le Seigneur qui les a attristés. D'accord? C'est l'Esprit de Dieu qui a convaincu leur cœur, qui a agi en eux. Mais ils ne sont pas restés avec la tristesse. Ça les a portés à la repentance. Et on continue à lire. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Une repentance à salut, c'est-à-dire une repentance qui sauve. Donc il y a des repentances qui ne sauvent pas. Il dit, votre tristesse vous a porté à une repentance à salut. Et une repentance à salut dont on ne se repent jamais, c'est-à-dire qu'on ne regrette pas. Hein? Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Quand on est attristé selon l'esprit, que ce soit l'évangile, que ce soit le Saint-Esprit qui œuvre en nous, eh ben, quand on a cette tristesse, ça doit nous porter à la repentance, à métanoïa, c'est-à-dire désir de changer de vie et de réaliser que s'il y a ce problème-là, j'ai besoin de considérer dans quoi ce problème-là est en train de moisir. Quel est le milieu dans lequel il porte son fruit? Quel est l'environnement? Quel est l'état qui favorise son développement? C'est comme ça que la vraie repentance vient traiter le problème, pas seulement le petit détail, mais on considère l'environnement dans lequel ce détail-là est là. L'environnement dans lequel ce problème-là est là, il subsiste. Et la vraie repentance nous amène, dans le détail, nous sommes attristés, bien sûr, mais nous amène à métanoïa, c'est-à-dire maintenant, qu'est-ce que je dois faire avec ma vie pour que ça change? Est-ce que vous comprenez? Suis-je assez clair? C'est pas juste régler ce problème-là. C'est comme si que quelqu'un, il a un champ de maïs, ou bien il a une culture, il a un champ de je sais pas trop quoi, et puis il y a un arbre qui crève. D'accord? On peut se poser la question, juste essayer de traiter l'arbre, mais peut-être quelqu'un qui a plus de connaissances, il se dit, il y a un problème quelque part là, peut-être que ça va tuer les autres arbres aussi. Mais on ne traite pas juste le pied de bois. Est-ce que vous comprenez? J'essaye de paraboliser. Je crée un mot là. On regarde l'ensemble. Et un chrétien, il doit toujours reconsidérer où est sa vie. Parce que souvent, les pièges de l'ennemi, les choses de l'ennemi nous atteignent quand nous sortons du fondement de l'évangile. Notre chair se réveille et manifeste des œuvres et ça prend le dessus souvent quand nous sommes dans le contexte où nous sortons du fondement de l'évangile. Donc, il y a des choses, quand ça commence à venir, à prendre de la force, on doit ne doit pas seulement s'arrêter sur ce détail, mais on doit regarder à l'état de notre vie et de notre cœur. Qui comprend? Et là, on passe de métamélomai à métanoïa. Là, on est dans la repentance que le Seigneur attend de nous. La repentance que le Seigneur attend de nous, c'est pas pleurer sur ce qui ne va pas. Pleurer sur ce qui ne va pas, c'est notre souffrance, ça. Quand on pleure, c'est parce qu'on souffre. Vous êtes d'accord avec moi? Quand vous pleurez, c'est parce que vous souffrez. Mais là où Dieu nous attend, bien sûr, c'est l'Esprit qui nous amène à là. Le Seigneur nous brise. Hein? On peut ressentir par l'Esprit l'horreur du péché. Et tout ça, c'est bon, ça produit une tristesse et on brise notre cœur. Mais là où Dieu nous attend, c'est qu'on prend une décision. Et c'est ça la différence entre les deux mots. C'est que le mot métanoïa, c'est un choix. Tandis que le mot métamélomai, c'est simplement une expérience émotionnelle. C'est quelque chose d'émotionnel. Judas a eu une expérience émotionnelle. Il a eu du remords. Il a pleuré. Il a réalisé. Hein? Mais peut-être qu'il aurait dû retourner vers le Seigneur et demander pardon au Seigneur. Il est allé jeter des pièces dans le temple. Est-ce que vous comprenez? Peut-être. C'était superficiel, ça ne l'a pas sauvé. Le diable a pris le dessus et il est allé se pendre. Mais quand on arrive à métanoïa, on arrive à la place où Dieu est avec nous. Et là, Dieu fait taire nos ennemis. Dieu fait taire nos accusateurs. Le pardon est vrai. Et Dieu est avec nous maintenant dans notre faiblesse. Et il va nous fortifier, il va œuvrer en nous quand on arrive à métanoïa. Si vous restez à votre place de remords sur ce qui ne va pas, vous ne vous en sortirez pas. Est-ce que vous comprenez? Et eux, leur tristesse les a portés à une repentance à salut. Tandis que Paul dit que la tristesse selon le monde produit la mort. Et la tristesse selon le monde, eh ben c'est cette repentance, c'est ce remords qui est là quand on a fait quelque chose qui n'est pas bon, mais dans lequel il n'y a pas de vie, il n'y a pas de solution, il n'y aura pas de purification, il n'y aura rien. On va recommencer même. Il n'y aura pas d'œuvre de Dieu. On a fait, on va refaire et on refera. Parce que la solution, c'est pas pleurer dessus, c'est pas le remords. La solution, c'est métanoïa. C'est ma vie maintenant. Quelle direction je donne à ma vie? Frères et sœurs, c'est ça qui nous sauve. C'est ça qui nous sauve. Hein? Moi, j'ai vu pendant des années beaucoup de chrétiens pleurer sur leur péché. Pleurer sur leur état. Pas seulement sur leur péché, mais sur leur état. Ils pleurent sur leur état. Et après, quoi là? Métamélomai ou bien métanoïa? Mais il y a beaucoup qui pleurent et qui restent avec métamélomai. Et que 2 semaines, 3 semaines après, c'est eux-mêmes qui pleurent encore. Et dans 1 mois, ça sera eux-mêmes qui vont pleurer encore. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'il faut maintenant amener notre vie à métanoïa. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas encore les deux mots par cœur maintenant. Regardez l'épître de Pierre. 2 Pierre. Oh, ça va devenir de plus en plus clair pour vous, mes frères et mes sœurs. Hein? Parce que, croyez-moi, Dieu veut tous nous changer. Tous. Et si quelqu'un ne change pas, c'est parce qu'il résiste à Dieu. C'est parce qu'il résiste à Dieu. C'est parce qu'il y a de l'orgueil. Mais Dieu est disposé. Quand il a trouvé quelqu'un à métanoïa, oh, il est avec celui-là. Il va le rendre libre. Il va faire briller son visage. 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Envers vous, c'est qui vous là? Les chrétiens. Il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous, c'est qui? nous tous, voulant que tous arrivent, où ça? Quelle repentance d'après vous, ça? Métamélomai ou bien métanoïa? Et si c'est pas métanoïa, c'est quoi? Ah, ça y est, la connaissance grecque qui rentre dans le peuple. Vous réalisez que Pierre dit que le Seigneur ne tarde pas comme quelques-uns croient, mais il use de patience. Pourquoi? Parce qu'il voit au milieu de son peuple des gens qui sont encore métamélomai, mais qui n'arrivent pas à métanoïa. Et qui risquent de périr. C'est sérieux, non? C'est sérieux? Dit que le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Non, non, non. Il y a une patience en lui. Et Dieu, dans son cœur, ne veut perdre aucun de ses enfants, tous ceux qu'il a appelés. Mais ceux qui seront sauvés, ce sont ceux qui arrivent à métanoïa. Ils arrivent à la repentance, à la vraie métanoïa, à la métanoïa. Ils arrivent à là. C'est-à-dire que leur vie a fait un détour. Ils ont dit non au monde, non à l'impureté, non à la religion, non au compromis, non à toutes ces histoires-là. Et là, il ne s'agit pas de leurs petits détails personnels, là. Il s'agit de leur vie. Et Jésus veut que tous arrivent à là. Que tous arrivent à là. Et Pierre parle aux chrétiens. Il ne parle pas à des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ces lettres-là ont été écrites à des chrétiens. Frères et sœurs, on ne peut pas se cacher derrière cette parole. On ne peut pas se cacher quelque part. On doit ouvrir notre cœur et regarder où j'en suis, moi. Ça serait une grosse erreur, mon frère, de se séduire soi-même, de se tromper soi-même, de se convaincre soi-même qu'on est comme il faut et là où il faut. Ça serait une grosse erreur. L'apôtre Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 13, il leur dit, éprouvez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, à moins que vous ne soyez réprouvés. À moins que vous ne soyez réprouvés. Donc, mes frères et mes sœurs, c'est sérieux? On ne peut pas jouer avec ça. On ne peut pas être faux avec ça. On doit réaliser c'est quoi notre vie. Et maintenant, la métanoïa, c'est la repentance qui nous fait vivre pour Dieu, qui nous fait donner notre vie au Seigneur, mais d'une manière vraie, avec des actions. Ah, bien sûr, à la base, on ne vit plus dans le péché. Si on est dans le péché, et qu'en plus, on ne pleure même pas dessus, on n'est même pas à métamélomai. Il y a des chrétiens qui n'y sont même pas parce qu'ils ont accepté le péché comme un style de vie. Ah, ils sont OK avec ça. Mais mon frère, ne crois pas qu'on échappe à la condamnation en se disant chrétien et en vivant dans le péché, en restant dans le péché et croire qu'on va aller au ciel. Il faut sortir. Le Seigneur dit, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Il faut qu'on regarde à notre vie, à notre style de vie, dans quoi est-ce qu'on est. Quelle est notre vie? Quel est le témoignage que rend notre vie? Non, c'est sérieux, mes frères et mes sœurs. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le verset 11 dit, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, eh ben, quelles ne devez-vous pas être par la sainteté et la conduite? De la conduite et par la piété, attendant et attend l'avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Il dit que si le peuple de Dieu arrive à cette métanoïa, cela, c'est comme si ça va accélérer l'avènement du jour de Dieu. Ça va hâter son avènement. C'est ce qui est écrit, non? Normal, puisque d'un côté, Pierre dit qu'il est patient, il ne veut pas que personne périsse. Donc, si tous ceux qui, s'il y a une repentance, et je crois que c'est ce que Dieu veut faire, la repentance que le Seigneur veut amener, bien sûr, c'est une forte conviction du Saint-Esprit pour nous faire ressentir notre misère, mais en même temps, ça doit nous amener, quand on a compris l'Évangile, à faire un choix. ma vie maintenant, elle n'est pas pour moi, elle est pour le Seigneur. C'est pourquoi on baptise des gens qui se sont vraiment repentis. Des gens qui naissent de nouveau, qui ont expérimenté la métanoïa, la vraie repentance. Hein? Pas l'adhésion à une religion. Et les pharisiens cherchaient avec Jean-Baptiste, ils cherchaient à fuir à la colère à venir, et ils venaient au baptême de Jean-Baptiste. Ils voulaient se faire baptiser, mais Jean-Baptiste les a repérés. Et Jean-Baptiste a dit, non, non, qu'est-ce qui se passe avec vous? Qui vous a appris à fuir à la colère à venir? Vous croyez que c'est venir vous tremper dans l'eau qui va vous sauver? Il leur a dit, produisez du fruit digne de repentance. Produisez des fruits dignes. Après, revenez. Mais ils savaient qu'ils étaient hypocrites. Ils essayaient, ils ne voulaient pas aller en enfer. D'un côté, ils se disaient, peut-être Jean-Baptiste, c'est un prophète. Donc, on va venir vers lui, il va faire quelque chose pour nous. Ça va te donner plus d'assurance que Dieu est avec nous. Ça va, quelque part, ça nous donne une petite garantie. Mes frères et mes sœurs, le baptême, c'est pas une garantie. Moi, je veux vous exhorter ce matin. Il faut trouver cette repentance. On est éclairé par l'Évangile, et même si on pleure pas, mais on est éclairé par l'Évangile. La vraie repentance, même si vous ne pleurez pas, mais si vous avez un choix, si Dieu convainc votre cœur, sans que vous passiez par des pleurs. Mais souvent, on passe par des pleurs, parce qu'on est brisé sur notre état. Mais quelqu'un voit, comprend, et se dit, j'ai compris. Je ne peux pas continuer comme ça. Je vais mettre de l'ordre. Fini de vivre dans les choses qui ne sont pas claires. Fini d'être un hypocrite. Fini d'avoir une façade devant les gens et devant l'église et d'être quelqu'un d'autre par derrière. Fini tout ça. Je veux avoir une vie qui est transparente, qui est claire. Je veux mettre de l'ordre. Je veux arrêter de travailler dans des choses qui ne sont pas claires. Je veux arrêter d'être dans une relation qui n'est pas claire. Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, j'arrête cela aujourd'hui même. Métanoïa. Sinon, ça va être quelques petits pleurs où on a du remords, où le Seigneur touche notre cœur et nous convainc, mais ça ne nous mène nulle part. On reste dans notre problème, dans notre état, on ne grandit pas, on ne change pas. Parce que pour ce changement-là, il faut cette repentance qui n'est pas une expérience émotionnelle, mais c'est une lumière, c'est un don de notre vie où là, on change de cap. Hein? Qu'est-ce que vous dites de ça? Ça vous éclaire un peu? Le fruit de la repentance qui vient de métanoïa, c'est un fruit durable. L'autre, c'est pas durable. L'autre, on pleure de coups là, on regrette, on part. C'est vrai, le Seigneur nous a pardonné. Parfois, on ressent qu'on est en paix, on a confessé. Mais, parce qu'il n'y a pas métanoïa, hop, l'affaire nous attend encore. Quelque chose d'autre nous attend encore. Ça, c'est tourner devant la porte du royaume, ça, c'est pas entrer dedans. Frères et sœurs, il faut entrer. Faut entrer. Et on ne peut pas juste dire j'attends que le Seigneur fasse. Mais si le Seigneur vous éclaire l'Évangile et là il y a la grâce de Dieu pour vous pour prendre des décisions. Il ne faut pas jouer, il ne faut pas attendre les jugements dans l'Église pour se remettre en question, mes frères et mes sœurs. Que la Bible nous dit, ce Pierre qui a parlé à la fin, il a dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il n'a pas dit ça? Hein? Quelque part, là, je ne sais plus où, moi. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Hein? Qui a trouvé? Première épître. chapitre 4, verset 16. Si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Il vaut mieux essuyer la honte devant les gens, mais être comme il faut dans la maison de Dieu, plutôt que de compromettre par crainte des gens et d'être dans l'église et que le jugement va commencer. Il vaut mieux être clair et être méprisé de tout le monde. Mais on est dans la maison de Dieu et le jugement ne nous atteint pas. Plutôt que de compromettre, être dans un état qui n'est pas clair et vouloir être dedans. On ne peut pas s'accrocher à la maison de Dieu en restant dans une vie qui n'est pas claire. Ça ne peut pas durer, ça ne durera pas, mes frères et mes sœurs. Ça ne durera pas, Dieu ne permettra pas. Mais Dieu est patient et par l'évangile et par son esprit, Dieu nous parle. Dieu nous demande de rectifier notre cœur. De rectifier notre vie. De changer notre style de vie. Il nous parle. Hein? Et si quelqu'un dit, eh ben, quand je vais ressentir une forte conviction de l'esprit, là, je vais sortir de là. Tu n'en auras jamais parce que déjà, d'être dans cette attitude, c'est de l'orgueil. Et Dieu résiste aux orgueilleux. Mais si quelqu'un sait que sa vie n'est pas claire, n'est pas droite, il faut qu'il mette de l'ordre. Il le sait, ça. Si tu veux avoir la vie éternelle, mon frère, si tu veux entrer dans le royaume des cieux, il faut se repentir, Jésus a dit. Métanoïa. Métanoïa, c'est mettre ta vie en ordre. Change de direction. Ouais. Et vous savez, quand quelqu'un est dans cette repentance, il y a une chose qui l'intéresse. Parce que quand on change de cap, on doit réapprendre dans la nouvelle direction. D'accord? Quand on change de cap, on doit changer de plan, on doit tout changer là. On ne peut pas changer de direction et garder les mêmes plans. Vous avez fait des accidents. Quand vous changez de cap, vous avez besoin d'un nouveau plan. Et la Bible parle du renouvellement de l'intelligence. On trouve ça dans Romains chapitre 12. L'apôtre Paul dit... Je vous exhorte donc, frères, verset premier, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés, voilà la transformation qui prend place, par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, maintenant, je suis enseigné de la parole de Dieu. Je veux obéir à la parole de Dieu. Mon cœur est ouvert pour comprendre comment vivre la vie du royaume de Dieu. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je suis prêt à changer ma manière de penser. Elle me dit, eh bien, c'est un lavage de cerveau alors. C'est un lavage de cœur. Le Seigneur, par son esprit, nous purifie et nous sommes ouverts à réapprendre à penser. Si nous voulons garder la pensée du monde, nous allons retourner vers le monde. La vraie repentance nous fait ouvrir notre cœur au Seigneur pour capter sa pensée. Et se repentir, ça veut dire repenser. Les deux commencent par repent. Vous avez remarqué? Repentir, c'est comme repenser. C'est pas juste être désolé. C'est repenser sa vie. Il faut repenser sa vie. Il faut un renouvellement dans l'intelligence, ma manière de voir. Parce que la vie du royaume de Dieu n'a rien à voir avec la vie de la chair. Oh, nous, si nous ne faisons pas attention, nous voulons le royaume de Dieu, mais nous voulons continuer à vivre la vie de la chair. Et c'est là notre combat et notre lutte. Nous voulons mener les deux vies, mais on ne peut pas. Parce que si nous menons la vie de la chair, nous mourrons. Et quand nous nous repentons et qu'on métanoïe, et qu'on dit non, je veux vivre la vie selon l'esprit, là on recommence à avoir la vie, on commence à être bien. Et quand on se laisse séduire par la chair et par le monde, et on retourne dans la chair,
On meurt, on ne peut pas avoir la vie et en même temps avoir les bonnes choses du monde et l'esprit du monde en même temps. Il faut un changement de cap. Et quand on a changé de cap maintenant, on dit au capitaine, quels sont tes ordres? Normal. Changement de cap, changement de direction, c'est nouveau point de nouvelle destination, nouvelle manière de partir. Il y a même un nouveau capitaine à bord. Parce que quand vous êtes dans l'autre bord, c'est la chair qui est votre chef. Et le diable qui vous inspire et qui peut vous faire tomber. Mais quand vous tournez de l'autre côté, Jésus devient le capitaine. Maintenant, Seigneur, quels sont tes ordres? C'est quoi ta parole? Comment je dois vivre maintenant? En tant que femme, en tant que mari, en tant que jeune? C'est quoi maintenant? Qu'est-ce que tu attends de moi en tant que quelqu'un qui travaille dans le monde? C'est quoi? Il y a un changement et ça ne peut pas être comme dans le monde. C'est une autre vie. Soyez transformés. Et ça, c'est ça qui va nous transformer. On est transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'Épître aux Éphésiens, regardez un petit coup. Au chapitre 4, l'apôtre Paul dit, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Voilà le changement de cap. Changement de cap, c'est être prêt à être dépouillé. Chapitre 4, verset 20, j'ai dit. Et 21 maintenant. À vous dépouiller, verset 22, « Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » Le vieil homme qui est là, quand on change de cap, il veut nous faire comprendre que ne pas obligé de tout le temps être dans cette direction-là. Il peut regarder un petit peu derrière et prendre un peu de derrière. Il se corrompt par les convoitises trompeuses qui sont derrière. D'accord? Et il dit au verset 23, « À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. » Si on n'est pas renouvelé dans l'esprit de notre intelligence, c'est-à-dire si on est mal inspiré dans notre manière de vivre, si on vit toujours sous l'inspiration des pensées mauvaises du passé, si on n'est pas renouvelé par la parole de Dieu pour avoir une autre manière de penser et de voir les choses, on ne pourra pas revêtir l'homme nouveau. On va rester avec notre chair en train de combattre pour essayer de se dépouiller, mais en même temps, on se laisse gagner par le vieil homme. On n'est pas renouvelé par l'esprit d'évangile. On veut garder notre vie, en même temps, on veut perdre notre vieil homme. On veut garder notre vie, on veut perdre le péché. On veut pas le péché, on veut plaire au Seigneur sans le péché, mais on veut garder notre vie. Enfin, on est dans un combat où le dépouillement ne peut pas se faire. Et le renouvellement de l'intelligence ne vient pas. Ah, mes frères et mes sœurs, c'est l'évangile. Hein? Qu'il y ait une vraie repentance qui vienne au milieu de nous. Hein? On réalise notre état, on entend l'évangile de la croix, on entend parler de cette croix-là tout le temps. Parce que c'est un appel, la croix, c'est un appel à changer de direction d'une manière claire. Et le diable a semé dans la chrétienté des évangiles qui produisent de fausses repentances. Des gens qui s'assoient dans l'église. La Bible dit que pendant que les gens de la maison dormaient, un ennemi est venu et a semé de l'ivraie. Des gens qui n'acceptent pas la conversion pour passer de l'ivraie au blé, qui restent de l'ivraie et qui sont là, et qui vont être des problèmes. Qui vont être des gens qui vont trahir, qui vont être des gens qui vont juger, qui vont être des gens qui vont critiquer, qui vont être des gens qui ne vont pas comprendre les choses de l'esprit, qui vont être des gens qui vont s'opposer. Ce n'est pas l'appel du Seigneur pour aucun d'entre nous ici. Nous, c'est métanoïa, changement de vie, changement de pensée, la pensée de Christ. Je veux la pensée de Christ. Hein? Pourquoi vous en dirais-je plus? Vous devez regarder où vous êtes, mes frères et mes sœurs. On aime tous les frères et sœurs. Moi, personnellement, ma plus grande joie, ça serait que nous tous, un jour, ensemble, nous tous, vraiment nous tous, on soit dans le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, je n'ai pas la garantie que tout le monde ici y sera. Je suis désolé, je dois vous dire la vérité. Hein. Je ne veux pas amener un doute sur vous, sur votre salut. Mais il faut qu'il y ait une crainte du Seigneur qui vienne. Il faut se dire, où j'en suis moi? Je dois avoir la crainte du Seigneur et ne pas juste trouver bien que je sois là, là. Mais c'est quoi ma vie? Hein? Quand on regarde la vie de l'Église primitive, c'était quoi leur vie? C'était quoi leur repentance? Leur repentance les avait amenés où? Leur repentance les avait amenés à se rencontrer une fois de temps en temps? Ils se voyaient quand ils en avaient envie? Hein? Ils faisaient les choses selon leurs humeurs, ils étaient libres, donc dans leur liberté, ils choisissaient de faire des petites choses de temps en temps. Ça, c'était pas la vie de l'Église primitive. Il y avait une repentance, ils s'étaient repentis et leur vie était consacrée à Dieu. Ouais, ils continuaient à travailler, ils allaient travailler, ils étaient persécutés. Il y avait des choses qu'ils voulaient pas rentrer dedans, ils voulaient plus tricher. Ils faisaient de leur mieux dans toutes choses, mais leur vie était consacrée à Dieu. Hein? Et si quelqu'un était avec quelqu'un que sa vie est pas en ordre, que ça s'appelle pas mariage, il mettait de l'ordre dedans. Il dit, ils mettent de l'ordre ou bien ils arrêtent la même. Parce que pour eux, Jésus pouvait revenir à n'importe quel moment. Il n'y avait pas de petit compromis pour savoir si ça va être le concubinage ou quoi. Non, certainement si les choses étaient arrivées à notre époque, on aurait eu ces dilemmes-là, mais réellement baptisé, réellement converti, réellement repentant, on aurait dit non, on arrête. Ah, mais parfois, il y a un prix à payer pour rentrer dans le royaume de Dieu. Hein? Je parle comme à des gens qui sont venus ce matin qui veulent entendre la pensée du Seigneur. Parce que si vous voulez entendre un causement, mais c'est trop sérieux ces choses-là. Il s'agit de votre âme, il s'agit du jour où Jésus va revenir, il s'agit des situations qui vont arriver, comme ce matin la prophétie nous disait, les temps difficiles viennent, ils sont déjà là. Et par le frère, le Seigneur ce matin nous disait qu'il faut se repentir. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps où ça sera trop tard. Et la Bible dit, et la Bible nous montre, ceux qui n'ont pas fait les choix dans le moment convenable, ils ont eu des pleurs et des grincements de dents parce qu'ils sont restés dehors. Et ils ont frappé, ils ont dit, mais Seigneur, tu nous as oubliés. Et le maître leur a dit, mais je ne vous ai jamais connu, vous ouvriers d'iniquité. Ah Seigneur, tu ne te souviens pas combien de fois je suis venu par devant pleurer parce que j'ai réalisé mon état. Oui, mais où est le métanoïa? Ah, frères et sœurs, on veut vous prêcher un évangile qui nous assure à tous la vie éternelle. Hein? Qui nous assure la vie éternelle. Pas qu'on passe la crème, on aime, on t'aime, mon frère, tu m'aimes, on t'aime, on s'aime. Mais la vérité doit venir. La vérité doit venir, même si c'est comme une brosse en fer, et nous brosser notre dos. Parce qu'il faut que toutes les crasses s'en aillent. Pour ça, moi, je parle comme cela, je ne suis pas contre personne, moi, hein, je ne suis pas mécontent. Voilà. Mais cette Église, elle doit se purifier. Elle doit se purifier. Assez de commérages, assez de lois, assez de mondanité, pas d'une manière légaliste. Quand je dis, vous comprenez toutes ces choses, je dis, faites attention d'aller faire vous-même vos petits jugements, hein. Un matin, une soeur arrive là, il y a un petit peu de phare là, et que vous allez revoir, vous lui dites à ma soeur, on a un peu trop de phare, enlève le phare là, tiens, un mouchoir là. Hein. Laisse elle tirer son phare, Sinatro, s'il vous plaît. Sinatro. Attention de faire votre petit mouvement tout seul. Mais Dieu est à l'œuvre. Mais on arrête. Il y a des choses. On désire capter le cœur du Seigneur. Hein, on désire avoir la connaissance de Dieu. Maintenant qu'on s'est repenti et maintenant qu'on veut, on dit Seigneur, maintenant parle-moi, éclaire-moi. C'est là qu'on a plus peur de relations. Hein? Pourquoi il y a des chrétiens qui vivent comme des tops? Hein? Pourquoi on vit dans notre petit trou? Pourquoi on ne veut même pas paraître quelque part? Pourquoi on ne veut pas avoir un contact? Pourquoi on ne veut pas faire connaître notre vie? Qu'est-ce qu'il y a dedans, donc? Qu'est-ce qu'il y a dedans, donc, pour qu'on se cache? Celui qui aime la vérité, il vient à la lumière, nous dit le Seigneur Jésus. Il vient à la lumière, il vient comme il est avec ses faiblesses, il vient, il dit voilà comment je suis, c'est vrai, je suis comme ça, mais je veux changer. Qu'est-ce que tu as à me dire pour m'aider? quelle résolution je dois prendre, qu'est-ce qui doit se passer. Et les choses, et là il y a une construction, et vous êtes sauvés mes frères et mes sœurs. Hein? Mais c'est pas en se cachant et en pointant nos oreilles, comme ces petits animaux qui sortent de l'étrier, qui pointent des oreilles pour regarder de loin s'il n'y a pas les ennemis. S'ils tournent dans le moindre truc, whoop, ils croient quoi dans le terrier? Non, pas comme ça. Sortir, venir, dire voilà comment je suis, voilà ma vie. Mais je veux changer. Je veux le métanoïa. Je veux être transformé par le renouvellement de mon intelligence. Parce que je veux être reconnu comme étant parmi le peuple de Dieu, pas parmi les hypocrites à qui le Seigneur dit hypocrite, retirez-vous de moi. Mais ça va être sérieux? Ah oui? Je vous dis que ça va être sérieux. Tout le monde dans les églises fait la fête et chante les chants sur le retour du Seigneur. Ah ben, au lieu de chanter là, allons regarder un petit peu notre vie. Apprenez-nous comment chanter. Comme ça que Jacques dit que votre joie se transforme en deuil. Soyez dans le deuil. Soyez dans la tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, homme pécheur, homme irrésolu. Il dit, humiliez-vous. Et Jacques parle à des chrétiens. Il ne parle pas des inconvertis. Il parle à des chrétiens. Il dit, soyez dans la tristesse. Regardez votre état. Vous faites honte. Regardez, ressentez la honte. Ressentez une vraie repentance, un vrai brisement. Et métanoïa, changez de direction. Et la Bible dit, en vous humiliant sous la main puissante de Dieu, il vous élèvera au temps convenable. Il vous aidera à redresser votre affaire. Hein? Frère, je ne peux pas vous dire ça autrement. Vous savez, Paul a dit, il a dit aux anciens d'Éphèse, je vous ai enseigné tout le conseil de Dieu, je suis pur du sang de vous tous. Si vous marchez pendant ce chemin-là demain matin, vous ne pourrez pas dire le frère Jocelyn, pas dire rien. Ah oui, non, ah, il y a des choses peut-être que je n'ai pas encore dit, que ça va venir, que les frères vont dire, chacun fait sa part, d'accord, mais vous ne pouvez pas dire cela. Mais moi, je vous encourage à une chose. C'est le temps de se repentir de la vraie repentance. De la vraie repentance. Et de ne pas se cacher derrière rien. Parce que le Dieu qui est sur le trône, ses yeux n'ont pas de limite. Il voit jusqu'au centre de la terre. Ses yeux n'ont pas de limite. Frères et sœurs, on ne peut pas jouer. On ne peut pas jouer. Il faut qu'on s'humilie, qu'on crie au Seigneur. Hein? Ces hommes qui ont entendu l'évangile, la première prédication, ils ont dit à Pierre, que devons-nous faire? Que devons-nous faire maintenant? Parce que notre cœur est touché, mais là on réalise notre vie. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre vie maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'il faut faire, mon frère? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Ils ont dit, que devons-nous faire? Ils n'ont pas dit, super Pierre, Pierre, bien prêché dimanche. Pierre, nous retrouve dimanche prochain. Super! Ils ont dit, mais que devons-nous faire? Qu'est-ce que je dois faire de ma vie maintenant? Ça, cette situation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a trop de chrétiens qui ont leur propre conviction, qui ont leur conviction et qui disent, ma vie est à moi, votre vie est à vous, ben faites attention, vous allez la couler vous-même. Métanoïa vous retire votre vie de votre propre main. Et vous fait mettre votre vie entre les mains du Seigneur. Et que vous arrêtez d'être quelqu'un qui est orgueilleux et qui croit connaître et qui croit comprendre, alors que l'évangile est tellement clair que l'Esprit de Dieu parle clairement. De ne pas attendre le jour où Dieu mettra à nu votre orgueil et vous montrera l'orgueil qu'il y a dans votre vie. De se croire tellement intelligent pour résister au Seigneur et à son évangile. De croire qu'on a un plan qui est meilleur. Mes frères, mes soeurs, ayons la crainte du Seigneur. Hein? Ne sont pas le diable reprendre notre âme. Ah non, il faut que je vous montre ce verset. Désolé si la fermeture de la Bible a déclenché votre estomac. Là, il faut remettre un frein de vue un petit instant. 2 Timothée, chapitre 2, verset 25. Paul dit à Timothée, que le serviteur de Dieu, il ne doit pas avoir de querelle et tout ça là. Il doit être doué de patience, il doit être propre à enseigner, il doit faire les choses comme il faut. Et le verset 25 dit, il doit redresser avec douceur les adversaires. Dans l'espérance que Dieu leur donnera la la métanoïa, pas quelques larmes, que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Hein? C'est-à-dire qu'à partir de là, tu vas pouvoir arriver à la connaissance de la vérité. À partir de là, tu n'as pas tout. Tu as besoin de la connaissance de la vérité. C'est comme ça que ces hommes-là ont dit, « Homme, frère, que devons-nous faire ?» Pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il parle à des chrétiens, là, qui sont devenus des adversaires de l'évangile, qui aiment discutailler, qui ont des opinions, qui sont forts avec leur intelligence, qui ont leur conception de la manière dont Dieu fait son œuvre, qui ont leur conception de l'Église. Il dit, mais le diable s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Il dit, mais toi, redresse avec douceur et parle, parle la vérité. Pour que revenu à son bon sens, il se dégage du piège du diable. Mon frère, ma sœur, si tu es dans un piège du diable, que le diable t'a pris, t'a mis dans une situation dans ta vie où maintenant tu es là en train de faire sa volonté. Parce que vivre dans le péché, c'est faire la volonté du diable. Ce matin, il faut te repentir, il ne faut pas jouer avec le feu. Eh, frères et sœurs, il ne faut pas jouer avec le feu. Vous savez de quel feu on parle? Il paraît que quelqu'un aurait eu une vision de l'enfer. C'est effrayant, l'enfer. Ah, c'est pas pour nous, parle pas de ça, frère. Hein? Et que le Seigneur lui aurait dit, toutes les souffrances de la terre réunies ensemble, c'est rien par rapport à une minute en enfer. Vous voulez jouer avec votre vie, vous? Vous voulez pas arriver à métanoïa? Vous voulez jouer avec votre salut? Vous voulez faire semblant? Vous voulez faire une petite comédie? Hein? Et dans le royaume de Dieu, Dieu a préparé une place pour les comédiens. Tous les comédiens par ici, par la porte de droite, rentrez. De l'autre côté, c'est les chrétiens qui sont vrais, de l'autre côté, c'est les comédiens. Non, frère, on passera tous par la même porte, c'est le Seigneur, la porte. On ne peut pas jouer avec notre âme et notre salut. Mais aujourd'hui, moi, je suis OK, moi. Aujourd'hui, tu es OK. Mais il y en a qui sont tombés profondément dans les pièges du diable. Peut-être que vous y êtes. Il faut se dégager. Parce que vous ne pouvez pas être dans les pièges du diable et être vaincu et être soumis à sa volonté et avoir le salut. Ça me paraît un peu décalé, quoi. Ça me paraît décalé. Frères et sœurs, il faut le métanoïa. Amen. On a tous des combats et des luttes. Mes frères et mes sœurs, moi, j'ai eu des faiblesses, des luttes, des combats, des choses qui étaient dans ma vie, qui minaient ma vie. Vous savez quelle a toujours été mon espérance, mes frères et sœurs? Dans mon combat et dans ma lutte. Il y a des moments où je me tenais devant le Seigneur, je dis « Seigneur, délivre-moi ». Et puis, je sentais les faiblesses de ma chair, mais je criais à Dieu. Mais je ressentais en moi un encouragement pour continuer à mettre mon bateau dans la bonne direction. Au fur et à mesure, le Seigneur a dégagé les affaires du bateau. Paf, dehors! Pouf, dehors! Ouais, moi je peux vous dire une chose. Ce qui me permet d'être devant vous aujourd'hui, de vous encourager, de servir le Seigneur avec vous, c'est un métanoïa. C'est une repentance où je réalise que je ne dois pas dire non au Seigneur, je dois dire oui au Seigneur. Je dois faire toute chose sans murmure ni hésitation. Ça doit être ma vie. Ça doit être ma vie. À chaque fois que le frère Mickey m'appelle pour me dire, il faut, ben maintenant, est-ce que je peux compter sur toi pour aller tel endroit? Je ne réfléchis même pas. Bien sûr, frère. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Moi, j'ai pris cette résolution-là. Peut-être que demain, j'échouerai à un niveau, hein. Mais jusqu'à maintenant, en tout cas, moi, j'ai marché dans ce chemin. Oui, je veux servir le Seigneur. Je veux être soumis à mes frères. Je ne veux pas être un hypocrite qui dit que je suis soumis à Dieu et que si mon frère veut compter sur moi, je dis, ben tu sais, ben c'est pas évident, hein, on va voir, etc. Non, je veux être vrai. Mon oui devant Dieu, c'est mon oui devant mes frères. C'est le même oui, c'est oui. Et l'assurance que ce Dieu-là, il va me libérer lui-même. Et il le fait. Et il l'a fait. Hein? Il y a des choses aujourd'hui dont je me sens libre, qui m'ont fatigué. Ce n'est pas parce que j'ai essayé d'être un bon garçon, hein? Mais le Seigneur fait son œuvre, le Seigneur est fidèle. On a partagé cette semaine sur la fidélité de Dieu. Ceux qui n'ont pas entendu le message, prenez le message. Le Seigneur est fidèle. Si vous êtes dans le bateau, dans la bonne direction, Dieu va s'occuper de vous. Tu ne seras pas le même. Le mois prochain, tu vas commencer. Pas le mois prochain, à partir du moment où il y a une décision dans ta vie, tu commences à changer. L'Esprit de Dieu est là. La loi de l'Esprit de vie est là. Pour t'affranchir de la loi du péché et de la mort. C'est progressif. Ça vient au fur et à mesure, mais ça vient sûrement. Il faut être patient, mais ça vient sûrement. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, mes frères et sœurs. Mais si vous ne trouvez pas la fidélité de Dieu, c'est parce que vous êtes encore, comme Jacques dit, un homme irrésolu. Un homme qui a une double pensée, qui est inconstant dans ses voies, qui un coup dit oui, un coup dit peut-être. Un coup, il dit non. Il y en a qui sont en train de faire une danse avec ça. Non, peut-être, oui. Ah, vous dansez. Pourquoi que c'est le moment de danser, vous? Ça doit être oui, Seigneur, oui. Ah, ça coûte, hein? Ah, frère, je ne sais pas quelle parole trouver pour vous encourager plus que cela. Mais j'ai l'assurance. Il n'y en a pas un ici. S'il marche dans ce chemin, il va rester le même. Il n'y en a pas un. Il n'y en a pas un, il n'y en a pas une. Et si vous avez, si ça fait 10 ans que vous êtes dans l'église, et vous avez la même histoire, la même affaire, et vous êtes là, vous êtes assis en vrac, vous luttez tout le temps avec les mêmes choses, il n'y a pas un progrès. Au contraire, la plupart du temps, vous rétrogradez encore plus encore. Mon frère, je te plains. Je te plains. Je te plains si tu es comme ça. Je ne te juge pas, mais je te plains. Parce qu'il n'y aura pas de solution miraculeuse pour toi. Tu as besoin d'obéir à l'évangile de la croix. Donc ce matin, mes frères, si Dieu vous parle, moi je vous dis, ne restez pas comme vous êtes. Comprenez la volonté du Seigneur. Comprenez l'appel du Seigneur. Hein? Et demandons au Seigneur ce matin de mettre la crainte de Dieu dans notre cœur, d'enlever la légèreté qui nous fait accepter d'être léger. Que Dieu mette en nous la crainte, sa crainte, la crainte de son nom. Hein? OK? On cherche le Seigneur ce matin ensemble? Vous ressentez le besoin de chercher le Seigneur, vous? Frères et sœurs, cette parole que vous entendez, Jésus a dit, c'est celle qui vous jugera. Cette parole que vous entendez. Si vous désobéissez à cet évangile, votre sort sera pire que les infidèles. Si à cause de la désobéissance, vous quittez les voies du Seigneur, je ne parle pas de faiblesse, je ne parle pas de perfection, moi, d'être parfait, non. Je dis qu'il doit y avoir une attitude, un désir d'obéir. Oui, Seigneur. Et parfois on rate, mais on revient à la même. Et la grâce de Dieu est avec nous. Hein? Ce matin, tenons-nous devant le Seigneur.